Des livres plein les oreilles. Et oui, il y en a qui écoutent beaucoup de musique et il y en a qui écoutent également beaucoup de livres. Alors bienvenue à cette émission des livres plein les oreilles consacrée aux livres audio d'où qu'ils viennent, oui, de chez Vues et Voix en premier lieu, mais aussi de tous les concurrents, entre guillemets, qui sont en fait des partenaires dès l'instant qu'ils s'adressent à vous, puisque tous ces livres audio qui sont enregistrés de par le monde, eh bien, ils sont faits pour vos oreilles à vous. C'est Clotilde Seille qui vous parle et je ne serai pas toute seule encore une fois à l'émission. Aujourd'hui, je reçois Louise Lacourcière. Je reçois aussi Marie-Claude Brasseur qui a lu Louise Lacourcière. Et ça, c'est disponible au SQLA, bien sûr, mais également nouvelle plateforme pour Vues et Voix, disponible sur Audible. On en reparle un petit peu plus tard. On va évoquer également les 350 ans des Fables de La Fontaine. Et puis donc, on va parler de plein de livres, dont La jeune fille au piano, La vallée des avalés, Moi, c'est Frida Kahlo, Moi, René au miroir. Oh, que de bouquins, mes amis. Mais d'abord une chanson qui est peut-être pas à mettre entre toutes les oreilles, mais comme on est entre des adultes, on l'écoute.
Allez, joue ton morceau.
Hein?
Joue ton morceau.
Oui.
Profite, t'as la salle d'argo, il y a du monde, tout ça.
Oui.
Allez.
Oui.
J'ai de longs cheveux dans le dos, mi sol fa mi ré do. Dans ma robe de percale blanche, chaque jour y compris dimanche, je vous charme d'un andantino, mi ré mi sol fa mi ré do, pour préparer le concert des abattoirs. Maman fait mander tous les soirs de vieux messieurs habilités à venir vérifier mon doigté. Sur moi ils ne posent pas leurs pattes, maman l'interdit mais constate. Que partit un machin collant scintille au creux de mes rubans. Mais elle pardonne tous leurs fantasmes à ces vieux cochons secoués d'âme, pour que j'entre à l'académie sol 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 fa sol fa sol mi. Faudrait se lever un peu tôt pour stopper mes petits marteaux et pour m'écarter de ces touches qu'avec des airs de petites touches je flatte d'un diminuendo mi ré mi. Car sachez le pauvre lourdeau, sous mes longs cheveux dans le dos, je suis inondé que teigne comme l'était Rubinstein. Pour jouer à la salgavo, j'ai joué comme on joue du couteau. Et pour échouer les clampins, je suis prête à massacrer Chopin, étant bien sûr considéré sol 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 mi sol do sol ré. Pardonne-toi comme dit maman à cause de mon tempérament. On me dessert le titre envié de petite bûcheronne du clavier, mais je me fous bien des remarques des puristes et des aristarques. Moi j'ai mes aficionados, mi ré mi sol 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 dos. Je jouerai au sein des combats kamikaze sur mon yama. Je jouerai pour
thank you.
Juliette Nourredine, que j'aime cette fille et c'est elle qui joue du piano. Hein. Dans La petite fille au piano, donc deux et par Juliette, que je voulais vous proposer, Louise Lacourcière, pour vous souhaiter la bienvenue.
Merci Clotilde.
Parce que vous avez signé ce livre qui s'appelle La jeune fille au piano, bon, qui n'a pas beaucoup de rapport avec cette jeune dévergondée, à part qu'elle étudie aussi le piano, mais enfin, celle-ci est vraiment une teigne, comme elle dit, comme l'était Rubinstein.
Oui, oui, oui.
Mais la vôtre, votre jeune fille au piano, est une jeune fille beaucoup plus sage.
Mais qui a quand même tout un caractère.
Tout un caractère quand même.
Tout un caractère quand même. Je voulais démontrer dans cette histoire comment le monde des non-voyants pouvait être un monde joyeux, comment les personnalités de ses amis, par exemple, pouvaient être fortes. On imagine souvent le monde des aveugles comme un monde de ténèbres, un monde triste.
Oui, oui, oui.
Alors que dans La jeune fille au piano, on se rend compte que ce sont des adolescents, finalement, qui veulent
mordre dans la vie.
Tout à fait, et que leurs besoins d'amitié, leurs besoins d'amour, leurs besoins de séduction ne sont pas différents des voyants, finalement.
Comme par exemple, il y a, on a une scène, bah, plusieurs d'ailleurs, qui se passe à l'Institut Nazareth, parce qu'on n'a pas dit qu'elle est aveugle. Hein. Donc maintenant, j'imagine que le public l'aura compris, mais cette jeune femme est aveugle, et donc elle va être admise à l'Institut Nazareth. Et c'est vrai qu'Institut Nazareth, quand on dit ce nom-là, on pense toujours, non seulement évidemment à la pénombre, c'est pas une image, mais et à quelque chose de triste, très rigoureux, très rigoureux, oui.
C'est rigoureux, mais les enfants et les adolescents ont de la place pour s'amuser, pour rire, pour faire des folies.
C'est ça, hein?
Oui, oui, tout à fait.
Alors, donc, cette jeune fille, elle vit quoi? À la campagne?
Elle vit à la campagne, elle vit à Saint-Léon-le-Grand, près de Louisville. Il faut vous dire qu'à la fin du 19e siècle, lorsqu'un enfant était handicapé, plus encore lorsqu'il était aveugle, il était caché. Donc, la jeune fille n'était à peu près jamais sortie de chez elle, surtout pas aller à l'église, parce qu'on disait que si une femme enceinte voyait ou touchait cet enfant aveugle, son enfant pouvait être handicapé aussi. Mmh. C'était très méchant, c'était très restrictif pour cette jeune fille-là qui aspirait à apprendre le piano, même que son désir le plus cher, c'était de devenir professeur de piano.
Oui, en plus.
Puis elle a du caractère. On se rend compte qu'Anne, c'est pas une moumoune.
Non! Alors donc, elle grandit.
Oui.
Donc, vous le dites, hein, dans les difficultés, on va l'entendre tout à l'heure dans un extrait, mais la maman n'est pas tendre envers elle.
Non, c'est ça.
Et heureusement, elle a papa, entre autres, qui lui fait découvrir le braille et ça va tout changer.
Ça va changer sa vie, son ouverture au monde, son goût de la lecture aussi.
Son goût de la lecture.
Mais surtout, d'avoir accès à ses partitions de musique qui sont maintenant en braille à l'Institut Nazareth. Faut vous dire que si Napoléon étant le père d'Anne, s'il n'avait pas eu son grand ami Antoine Pelletier, qui est médecin à Saint-Léon-le-Grand, probablement qu'Anne ne serait jamais sortie de chez elle. C'est le docteur Antoine Pelletier qui a convaincu Napoléon que pour le bien de sa fille, il devait la laisser réaliser son rêve de devenir musicienne, d'apprendre le piano. Il faut vous dire que l'Institut Nazareth, à ce moment-là, était considéré comme le conservatoire de la province de Québec. Le conservatoire de Montréal n'était pas fondé à ce moment-là. Mon amie qui est musicienne, Gisèle Fréchette, m'a d'ailleurs fait la correction, à savoir que le conservatoire avait vu le jour en 1920. C'est bien ça, hein?
Madame
Fréchette,
elle est là, Gisèle. Approchez-vous un petit peu. Mais oui, approchez-vous un petit peu du micro, voilà. Bonjour, Gisèle.
Bonjour.
Vous êtes là, vous, Gisèle, parce que, bon, d'abord, vous êtes une amie de Louise.
Oui.
Vous êtes musicienne.
Oui.
Vous jouez à l'Orchestre Métropolitain.
J'ai joué.
Vous êtes retraitée. Oui. Est-ce que vous avez eu Yannick devant vous pendant quelques années? Yannick Nézet-Séguin?
Non, malheureusement.
C'était juste avant.
Ouais, c'est un grand regret.
j'en suis convaincue. Et donc, elle vous a aidé beaucoup,
Gisèle. Je dois vous
dire
que Gisèle est ma lectrice depuis La jeune fille au piano, c'est le 10e livre publié. Gisèle a été ma lectrice à partir du 2e livre que j'ai publié et j'ai mis à profit ses talents de musicienne pour le rythme dans mon texte. Concernant la jeune fille au piano...
Ça, c'est fantastique d'entendre ça parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point, et nous qui lisons à haute voix, on le sait, on le sait, quand un livre a été bien écrit, en tout cas bien écrit, on s'entend, là, je ne veux pas dire que tous les livres sont... Mais un livre qui se lit bien à haute voix, c'est un livre qui est bien rythmé, avec des ponctuations, avec des pauses, avec des silences, avec des tout ça. En tout cas, bravo Gisèle, si c'est grâce à vous, entre autres, qu'on a ça.
Entre autres,
oui, oui. Entre
j'étais pas la seule.
Je dois vous dire que pour la jeune fille au piano, j'ai dû avoir recours à des musiciennes, parce que oui, j'ai appris le piano quelques années, mais pour enseigner le piano, c'est quelque chose de différent. Et j'ai, si vous regardez à la fin de mon livre, j'ai remercié les triplettes de Delery.
Oui.
Delery étant l'endroit où Gisèle et sa sœur ont une maison en Floride. Et elles étaient trois musiciennes de haut niveau à me montrer comment Anne devait apprendre le piano à Nazareth. Comprenez-vous?
Alors, je vous rappelle que je m'entretiens en ce moment avec Louise Lacourcière, qui a écrit « La jeune fille au piano ». Et on va, d'ici quelques minutes, s'entretenir avec Marie-Claude Brasseur, que vous connaissez bien, qui a été, si vous, Gisèle, vous avez été la lectrice à voix basse avant que le livre sorte, eh bien, Marie-Claude Brasseur a été la lectrice à haute voix.
À haute voix, Clotilde, mais aussi... lectrice de manuscrits depuis mes tout débuts,
aussi.
Marie-Claude.
Alors, on va téléphoner à Marie-Claude, mais juste avant, je voudrais déjà qu'on l'écoute dans un premier extrait.
Le tangage du wagon la berçait. Les explications de son père également. Son cher papa. Là, Anne, on traverse un corridor de roseaux. Je devrais plutôt dire une mer de roseaux. Des roseaux? Comme à Saint-Léon? Mais oui. Tu te souviens, on les retrouve en bordure des reins. Si c'est humide, dans les fossés et les marais aussi. Ils aiment l'eau. Mais ici, il y en a beaucoup plus. Aveugle depuis l'âge de 3 ans, Anne ne franchissait pas seule les limites de la cour à l'arrière de la maison paternelle. « Pour ton bien », lui avaient répété ses parents. « Pour te protéger », lui avait-il chanté sur tous les tons. Pourquoi n'assistait-elle pas à la messe comme ses frères et sœurs? Ne recevait-elle pas le sacrement de l'Eucharistie à l'église plutôt que d'obliger le curé à venir chez elle lui donner la communion? Pourquoi l'empêchait-on d'aller à l'école, de jouer dehors, de se promener dans le village? En réponse à ses insistants, pourquoi? Sa mère, à bout de nerfs, lui avait un jour crié « Un aveugle dans une famille, c'est une punition du bon Dieu ». Tu ne veux quand même pas qu'en plus, on s'humilie devant tout le monde? Et puis s'il fallait qu'une femme en famille te regarde et qu'après elle mette au monde un bébé qui ne voit pas clair, ce serait ta faute, de notre faute. Imagines-tu notre honte? Plus personne ne nous parlerait. C'est ça que tu cherches?
Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Clotilde.
Ça va bien Marie-Claude?
Oui, je vais très très bien, merci. Bonjour Louise.
Bonjour Marie-Claude.
Et on a même Gisèle qui est là.
Bonjour Gisèle.
Alors Marie-Claude, il ne manquait plus que vous, mais vous habitez
oui,
un peu loin. Hein? Alors,
ouais, c'est pour... un peu loin malheureusement.
Mais avec le téléphone, c'est comme si vous étiez tout près. On vient d'entendre un premier extrait de cette jeune fille au piano de Louise Lacourcière.
Uh-huh.
Moi, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de ce livre, vous, Marie-Claude, en tant que lectrice, qu'est-ce qui vous a touché le plus dans ce livre-là?
Bon, en tant que lectrice, vous savez que c'est une longue histoire d'amour et,
oui.
et d'amitié et de collaboration, hein, Louise et moi.
Je
oui.
suis d'accord.
j'aime beaucoup l'univers de Louise Lacourcière, de manière générale. Je vous dirais que ce qui m'a particulièrement touchée dans La jeune fille au piano, c'est le personnage d'Anne. C'est un personnage qui est particulièrement attachant, cette Anne Allary. On aime en fait son aplomb, on aime sa détermination, sa force tranquille, puis en même temps sa fragilité et sa douceur. Il y a beaucoup de tendresse dans l'écriture de Louise et tout ça, ça me touche beaucoup.
Mais dans son personnage aussi d'ailleurs, parce que je la rencontre pour la première fois, là, elle est à côté de moi et je trouve qu'il y a une profonde tendresse qui émane à la fois de la femme et de l'auteur, et ça
absolument,
c'est vrai.
Absolument, je le sais.
Et alors, dites-moi, c'est vraiment une belle aventure que vous vivez avec ce livre-là, parce qu'en plus, vous allez participer à la soirée au Noir, au restaurant au Noir, où cette année, donc encore une fois organisée par Vues et Voix dans le cadre du film, le Festival international de littérature de Montréal. Et là, vous allez lire aussi un extrait de ce livre-là, parce que le thème, c'est la cécité. Hein? Ouais. Donc, tous les textes qui ont été choisis le sont dans des œuvres où il est question d'une ou de plusieurs personnes aveugles ou encore de témoignages.
Ouais.
Comment vous vous sentez à une semaine à peu près de vivre ça?
Une semaine,
oui, parce qu'on est toujours en pré-enregistrement. Alors, au moment où l'émission sera diffusée, on sera une semaine.
Probablement que je me serai calmée, parce que je suis très fébrile. Je suis toujours, en fait, très fébrile quand vient le temps pour moi de lire en public. Pourtant, oui. Je suis un peu rompue à l'exercice de par ma profession, mais ce sera une nouvelle belle expérience. J'ai très hâte de voir,
bon.
Ce que ça va donner.
Louise Lacourcière voulait nous parler de quelqu'un qui vous a aidé, Louise, aussi, pour écrire ce livre-là, importante.
Hein? Oui, Marie-Claude est au courant. Vous savez, on dit... quand tu veux vraiment quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Mm-hmm. Et on sait que c'est Paulo Coelho qui nous a dit ça. Moi, je voulais écrire l'histoire d'Anne Allary, mais je me disais, bon sang, j'ai... comment je peux montrer le piano à une aveugle? Puis je voulais que ce soit crédible. Et j'ai une de mes belles-sœurs qui me dit, ah ben moi, j'ai une tante qui a été enseignante de piano à l'Institut Nazareth. Ça faisait comme... Ben, c'est ça.
Moi aussi, s'appelle comment?
Elle s'appelle Laurette Lorrain.
OK.
C'est la sœur de Camille Lorrain.
Oh là 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 là, oui!
Et Laurette, lorsque je lui ai demandé son aide, elle a été d'une magnanimité extraordinaire parce que pour elle, c'est important aussi qu'on immortalise d'une certaine façon l'œuvre de Nazareth. Et elle m'a fait rencontrer plusieurs de ses élèves qui étaient non-voyantes et qui sont devenues enseignantes, qui ont fait des maîtrises en musique, un doctorat en pédagogie. Alors, c'est fou le talent de ces gens-là.
On va donc diffuser maintenant cet extrait numéro 2.
Et merci beaucoup, Marie-Claude, d'être dans ma vie.
Ah.
Merci à toi.
De dire Louise Lacourcière, l'auteur, je vous le rappelle, de ce livre vraiment très, très beau qui s'appelle « La jeune fille au piano » et qui, bien sûr, est disponible en audio gratuitement pour vous via le SQLA, donc via le service québécois du livre adapté. Merci beaucoup, Louise Lacourcière. Merci, Gisèle.
Merci, Clodilde.
Au bord de la neurasthénie, Anne avait, pour ainsi dire, perdu le goût de vivre. Même si sa mère avait redoublé d'attention, son attitude compatissante n'avait en rien atténué ses blessantes paroles. Le mal était fait. À tout moment, ce douloureux épisode reprenait vie et l'oppressait. Heureusement, son père était là. Un jour, sans un mot, il lui avait pris la main et l'avait posée sur un livre rempli de petits points embossés. Son père, son héros, sauf quand il la couvait comme une enfant, venait de changer sa vie. Avec une infinie patience, jour après jour, il lui avait enseigné l'alphabet braille. Comment l'avait-il appris ? Napoléon Allary, un autodidacte né, agriculteur de métier, avait gagné l'estime et le respect de son entourage en mettant ses dons de ramancheur au service de tous ceux qui le sollicitaient. De plus, l'homme le plus important du village après le curé, le docteur Antoine Pelletier, l'honorait de son amitié et lui référait parfois certains de ses patients. C'était d'ailleurs en grande partie grâce à cet ami que, à compter de ce jour, Anne fréquenterait l'Institut Nazareth de Montréal, un établissement spécialisé dans l'éducation des aveugles. À force de persévérance, le docteur Pelletier avait convaincu son père qu'elle y serait plus heureuse là que confinée à la maison.
La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survint à jeun qui cherchait aventure. Et que la faim en ces lieux attirait. Tu te rends si hardi de troubler mon breuvage. Il dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité.
Si, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt
Il s'appelle Monsieur Pratt, Jean-Paul Pratt, celui qu'on écoutait. Il a enregistré les fables de La Fontaine, et dont notamment celle-ci, Le loup et l'agneau. Pourquoi je diffuse un extrait de cela? Parce que les fables de La Fontaine ont 350 ans cette année, et que Jean-François Nadeau, dans Le Devoir, a écrit un papier au mois d'avril de cette année encore, pour nous en parler de cet anniversaire, pour nous rappeler notamment que le premier tome, c'est-à-dire celui que l'on connaît le mieux, hein, des fables de La Fontaine, est paru en 1668. Alors c'est dans celui-ci qu'on trouve tous les incontournables comme le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, etc. Et c'est beaucoup plus tard, c'est en 93 que va sortir le second tome des fables de La Fontaine. Monsieur Nadeau qui nous dit aussi que l'étoile n'a jamais pâli de ce monsieur dont on étudie, dont on continue d'étudier, de lire les fables année après année dans quasiment toutes les écoles francophones du monde. Puis si ça se fait pas, eh bien c'est dommage. Moi je me souviens qu'au conservatoire en art dramatique, on travaillait surtout sur les fables. C'est un petit peu comme les gammes chez le musicien, hein, Gisèle, à côté de moi, qui est là. On peut dire au sujet des fables aussi qu'il y en a eu d'autres avant lui, hein, La Fontaine. Il y a eu Monsieur Ésope, notamment, qui avait écrit des fables. Et que, notamment, Le corbeau et le renard viendraient de l'une des fables d'Ésope. Alors, est-ce qu'on peut parler de plagiat? Non, absolument pas. Mais plutôt, nous dit Monsieur Nadeau dans Le Devoir, d'une façon de faire communément admise alors, en accord avec la volonté de s'élever au-dessus des anciens, donc d'être meilleur que les anciens, question de voir plus loin qu'eux tout en montant sur les sommets de leurs œuvres. J'ai beaucoup cherché, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus à essayer de trouver de l'audio de fables intéressant à écouter. Honnêtement, j'ai tellement rien trouvé. Tout ce que j'ai lu, c'était inécoutable, c'était vraiment pas beau, c'était très scolaire, très très moche. Mais à un moment donné, j'ai eu une idée, je me suis dit, tiens, je vais juste taper Fable, La Fontaine, Lucchini, sachant que Fabrice Lucchini a déjà fait un spectacle, vous savez qu'il est cet acteur génial, bon, français, et je savais qu'il avait déjà présenté un spectacle des Fables de La Fontaine. Et là, je suis tombée sur une mine d'or. Mes amis, si vous voulez entendre gratuitement de l'audio, vous allez sur YouTube et vous faites Fable, La Fontaine, Lucchini, c'est un régal. Et là, si vous le voulez bien, on va aller frapper à la porte de sa loge et Lucchini va nous recevoir et va nous déclamer, nous dire, sans la lire, hein, une fable qui est, je vais lui laisser le soin de la présenter. Ce que je peux vous dire, c'est que en cette période d'élection, eh bien, c'est une fable que les puissants de ce monde auraient tout intérêt à entendre. Alors attention, on va frapper à la porte de Fabrice Lucchini.
Et il me demande de lire un texte. Et il y a ce texte qui serait absolument formidable à dire. C'est sur l'autorité des puissants et que les gens ne connaissent pas bien. Alors, comme c'est une gamme avant le Philippe Muret, je vais essayer de vous le dire rapidement. D'abord, il faut imaginer un conflit. Non, les hommes politiques sont merveilleux, ils sont formidables, ils sont les princes. Alors, un homme vit une couleuvre. Oh, méchant, dit-il. Je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme, on pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent, se laissant attraper, est pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire, on résolut sa mort, qu'il fût coupable ou non. Afin de le payer toutefois de raison, l'autre lui fit cette harangue, symbole des ingrats, être bon ou méchant, c'est être sot. Meurs donc! Ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. Le serpent, en sa langue, reprit du mieux qu'il put. S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner? Toi-même, tu te fais ton procès. Je me fonde sur tes propres leçons. Jette les yeux sur toi. Ta justice et ton utilité, ton besoin, ton caprice, selon ces lois, condamne-moi. Mais trouve bon qu'avec franchise, en mourant, au moins je te dise... Le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent, c'est l'homme. Ces paroles firent arrêter l'autre. Il recula d'un pas. Enfin, il répartit. Tes raisons sont frivoles. Je pourrais décider, car ce droit m'appartient. Mais rapportons-nous-en. Soit fait, dit le reptile, une vache était là. On l'appelle, elle vient. Le cas est proposé. C'est des choses faciles, Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler? La couleuvre a raison, pourquoi dissimuler? Je nourris celui-ci depuis longues années. Il n'a sans mes bienfaits passé nulle journée. Tout n'est que pour lui seul. Mon lait et mes enfants le font à la maison revenir les mains pleines. Et mes peines ont pour but son plaisir, ainsi que ses besoins. Enfin, me voilà vieille, il me laisse en un coin, sans herbe. S'il voulait au moins me laisser paître, mais je suis attachée. Et si j'eusse eu pour maître un serpent, eût-il su jamais pousser si loin l'ingratitude à Dieu, j'ai dit ce que je pense. L'homme, tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent, « Faut-il croire ce qu'elle dit ? C'est une radoteuse. Elle a perdu l'esprit. Croyons ce bœuf. » « Croyons !» dit la rampante bête. « Le bœuf vient à pas lent. » Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête, il dit que du labeur des ans pour nous seuls, il portait les poids les plus pesants, parcourant sans cesser ce long cercle de peine, qui, revenant sur soi, ramenait dans nos plaines ce que Cérès nous donne et vend aux animaux, que cette suite de travaux, pour récompense, avait de tous, tant que nous sommes, force coup, peu de gré. Puis quand il était vieux, on croyait l'honorer chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence des dieux, ainsi parla le bœuf. L'homme dit, mais faisons taire cet ennuyeux déclamateur. Il cherche de grands mots et vient ici se faire, au lieu d'arbitre, accusateur. Je le récuse aussi. L'arbre étant pris pour juge, ce fut bien pis encore. Il servait de refuge contre le froid, la pluie, la fureur des vents. Pour nous seuls, il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sut faire. Il courbait sous les fruits. Cependant, pour salaire, un rustre l'abattait. C'était là son loyer. Quoique pendant tout l'an, libéral, il nous donne, ou des fleurs au printemps, ou du fruit en automne, l'ombre, l'été, l'hiver, les plaisirs du foyer, que ne les mondait-on sans prendre la cognée, de son tempérament, il eût encore vécu. L'homme, trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, du sac et du serpent, il donna contre le mur si fort qu'il tua la bête. On en use ainsi chez les grands. La raison les offense. Ils se sont mis en tête que tout est né pour eux, quadrupèdes et gens et serpents. Si quelqu'un desserre les dents, c'est un sot, j'en conviens, mais que faut-il donc faire? Parler de loin, ou bien se taire.
Voilà Fabrice Lucchini dans L'homme et la couleuvre, de Jean de La Fontaine. C'est Clotilde Seille sur les ondes de Canal M qui vous présente, non pas M l'été comme j'allais le dire, mais bien des livres pleins les oreilles. On se retrouve dans quelques minutes. Des livres pleins les oreilles, la suite. Alors, en seconde partie à cette émission, eh bien, nous allons entendre Pascal Bussière qui a lu pour vous « La vallée des avalés » de Régent Duchard. Mais puis, on va aussi aller à la rencontre d'Hélène Gauthier, bibliothécaire du SQLA, qui va évoquer pour nous des livres audio autour de René Aumierois notamment et Frida Kahlo. Juste avant d'aller écouter Pascal Bussière, voici cette chanson d'Yves Desrosiers, ça s'appelle « Maruelle ».
Un chat danse dans ma ruelle, sous un couvercle de poubelle. Butin inerte, douce découverte. Un ovni dans ma ruelle, un voisin qui l'interpelle. Blancheur inhabituelle, odeur corporelle. Un musicien dans ma ruelle, petit air de violon. violoncelle. Libre sérénade sur une engueulade.
Bonjour, je m'appelle Pascal Bussière et j'aimerais vous lire « La vallée des avalées » de Régent Ducharme aux éditions Gallimard. Chapitre 1. Tout m'avale. Quand j'ai les yeux fermés, c'est par mon ventre que je suis avalée, dans mon ventre que j'étouffe. Quand j'ai les yeux ouverts, c'est parce que je vois que je suis avalée. C'est dans le ventre de ce que je vois que je suffoque. Je suis avalée par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles, par les papillons trop craintifs, par le visage trop beau de ma mère. Le visage de ma mère est beau pour rien. S'il était laid, il serait laid pour rien. Les visages, beaux ou laids, ne servent à rien. On regarde un visage, un papillon, une fleur, et ça nous travaille, puis ça nous irrite. Si on se laisse faire, ça nous désespère. Il ne devrait pas y avoir de visage, de papillon, de fleurs. Que j'ai les yeux ouverts ou fermés, je suis englobée. Il n'y a plus assez d'air tout à coup. Mon cœur se serre. La peur me saisit.
Et oui, c'est bel et bien la voix de Pascal Bussière que vous venez d'entendre. Elle a enregistré La vallée des avalées. C'est une production de ICI Radio-Canada Première que vous pouvez trouver, télécharger ou lire en continu sur le site d'ICI Radio-Canada Première ou encore, comme nous l'a appris, notre amie, comme va nous l'apprendre, pardon, notre amie Hélène Gauthier, que vous pourrez aussi retrouver via le SQLA. Alors, pourquoi j'ai choisi cette extrait de La vallée des avalées, il va y en avoir un autre un petit peu plus tard, c'est parce que récemment je suis tombée sur un papier, ma foi, fort intéressant, écrit par Mario Girard, et j'ai pensé que peut-être vous l'aviez raté, que ça vous intéresserait de le connaître. C'est un papier qu'il a sorti dans La Presse Plus. Ça s'appelle « Un auteur pas écrapoutissable » et il est question de Régent Ducharme. Il écrit « Rose Andrée Sauvageau adore les fleurs ». Elle peut en parler pendant des heures. Elle aime les fleurs au point de souhaiter que tout le monde puisse en avoir autour de soi. Si vous voulez des hibiscus vivaces, dites-le-moi. Je vais vous partir des plants. Je suis la reine de la bouture. J'ai fait connaissance avec Rose Andrée il y a quelques mois lors d'une visite dans le quartier de Régent Ducharme. L'auteur habitait à quelques mètres de la reine de la bouture. Préférant utiliser la porte arrière de sa maison pour ses balades quotidiennes, le mystérieux voisin empruntait un passage qui longe un jardin communautaire et une ruelle qui sépare la maison de Rose André d'une série de HLM. Rose André m'avait dit, lors de cette rencontre, qu'elle voulait embellir la ruelle et la nommer du nom de celui qui était connu pour sa grande discrétion. C'est maintenant fait. La mémoire de Régent Ducharme est honorée par une petite ruelle conçue avec deux bouts de ficelle et beaucoup de passion. L'auteur aimerait sans doute le résultat, lui, qui aimait s'arrêter devant les fleurs. On a reçu un appui extraordinaire de l'éco-quartier du Sud-Ouest, qui comprend la petite Bourgogne, de même que de la ville et de la fondation Régent Ducharme, m'a raconté Rose André. Une plate-bande a été créée. On y retrouve toutes sortes de plantes et de fleurs. Au bout de la ruelle, on a installé une boîte de livres à partager. Une plaque devrait être installée pour indiquer l'emplacement de la ruelle qui est perpendiculaire à la rue Quesnel. On doit attendre que la personne soit décédée depuis un an avant de pouvoir baptiser un lieu de son nom, explique Rose André. La plaque ne devrait pas tarder, car cet anniversaire a lieu demain. Le projet a été rassembleur. Des voisins qu'on n'a pas l'habitude de voir se sont impliqués. Samedi, une petite fête a été organisée pour inaugurer ce bout de chemin fleuri. Je le disais, la ruelle longe des HLM. Plusieurs enfants vivent dans ces appartements. Rose André a mené ce projet en pensant à eux. Elle a tenu à mettre des bacs à jardinage et à créer une aire de jeu. La nouveauté des derniers jours a été le don de voiturettes dans lesquelles les gamins peuvent se déplacer. Un graffitiste a l'habitude de sévir dans le quartier. La semaine dernière, il a fait un geste qui a fait plaisir à Rose André. Regardez, il a tracé des lignes sur le sol. Il a fait un mini-parking pour les voiturettes. Et regardez ici, il a fait des fleurs. Disons que je préfère cela à des pénis. En voyant cet espace conçu pour les enfants, je n'ai pu m'empêcher de penser à Manon, ce bouleversant personnage imaginé par Ducharme dans le film de Francis Mankiewicz, Les bons débarras. Dans l'une des nombreuses déclarations d'amour à sa mère, Manon fantasme à l'idée de voir celle-ci recevoir un beau char sport des mains d'un gars qui en a de collé. On sortirait ensemble, on ferait nos fraîches, on passerait à 100 000 à l'heure, puis on aurait un accident, un gros. On perdrait beaucoup de sang. Ton sang se mélangerait au mien dans l'asphalte. Puis il pousserait une fleur dans l'asphalte. Pas arrachable, pas cassable, pas écrapoutissable. T'aimerais pas ça, toi? Et Mario Girard qui conclut en disant merci à Rose André et à tous ceux qui portent à bout de bras des projets communautaires comme celui-ci. Ils réussissent des miracles, comme faire surgir des fleurs de l'asphalte. À quelle heure on meurt? Il y a exactement 30 ans, Martin Fauché, fraîchement sorti du cégep de Saint-Hyacinthe, plongeait tête première dans un projet audacieux et fou, celui de réunir des textes de Régent Ducharme et d'en faire un collage destiné au théâtre. Alors le texte est maintenant bien en vie, il reste maintenant à ce texte, et là c'est Clotilde qui parle, ce n'est plus Mario Girard. Souhaitons que ce texte retrouve de nouveau le chemin de la scène et surtout de vos oreilles. Ça va s'appeler « À quelle heure on meurt ?» Mais en attendant, voici, pour le plaisir, le velours de nos oreilles également, un extrait de « La vallée des avalées » lu par Pascal Bussière.
Chapitre 11. Quatre moineaux sautent de miettes de pain en miettes de pain devant la porte du pavillon du jardinier. Un coup de vent glacial remporte les quatre moineaux sur leur corniche. L'an dernier, au premier froid, j'y mis la langue sur le corbeau de la grille et elle y est restée collée. Tellement collée que toute la peau s'est arrachée quand j'ai tiré. J'enlève mes chaudes moufles plantées devant la grille. Je tends mes mains moites vers le corbeau de fer que le froid hérisse d'une sorte de duvet blanc. J'ai peur. Mais le corbeau de fer me fait trop envie. Après mains reculs et mains hésitations, je me résous. Fermant les yeux, poussant un petit cri, je le saisis à pleine main. Aïe ! C'est pire qu'en poignée de braise. Le métal est comme bouillant de froid. Je sens mes paumes adhérer, ma peau fondre. Le cœur me manque. Ma bouche s'ouvre. Ne crie pas. Ravale ces cris infâmes, Bernie Sandberg. Je tente de retirer mes mains. L'épiderme s'arrache à la chair. Souffre, mais ne crie pas. Pense au père Brébeuf. Le père Brébeuf n'a pas crié quand les Indiens lui ont passé au cou leur collier de fer chauffé à blanc. Émerveillé du courage, du frêle visage blanc, les rudes guerriers se sont disputés son cœur. Ne perds pas la tête, Bernie Sandberg. Souffrir n'est que contre ta chair. Pousser des cris comme une poule qu'on prend par les pattes est contre toute ton âme. Les Indiens savaient que le père Brébeuf souffrait, mais ça ne leur suffisait pas. Ils voulaient qu'il crie, qu'il gesticule, qu'il perde possession de lui-même, que son orgueil défaille. Ne te perds pas. Garde ton âme bien serrée dans tes bras, Bérénice Sandberg.
Bonjour Hélène Gauthier.
Bonjour.
C'est très gentil à vous d'être venue pour cette nouvelle saison de l'émission Des livres pleins les oreilles.
Oui, une belle rentrée avec vous.
Bon, et comme toujours, Hélène, vous allez venir nous présenter des nouveautés qu'on peut retrouver notamment via le SQLA, mais d'ailleurs, parfois, ça peut avoir une autre origine, hein, mais on peut quand même retrouver ce livre, enfin ça, vous allez nous en parler un petit peu plus, via le Service québécois du livre adapté. Alors, on y va avec quoi?
Bon, on va commencer avec deux livres pour enfants qui nous viennent d'une ressource que j'ai découvert récemment. C'est le site Première Plus ici, Radio-Canada, qui offre des livres sonores et des balados diffusion. Donc, c'est dans des
gratuites.
Oui, hein? Tout est gratuit.
Absolument.
Absolument, tout est gratuit. C'est des enregistrements sonores en ligne. Ils sont disponibles en téléchargement, mais en format MP4. Donc, c'est pas un format adapté. Mm-hmm. C'est vraiment un format grand public qui est accessible à tous. C'est aussi en diffusion en mode continu si on veut pas le télécharger. Et ces documents-là, on peut les retrouver facilement par le catalogue Iris de BANQ.
Donc, tous.
Oui,
Parce que moi, j'en parle assez régulièrement depuis qu'on a commencé cette émission Nouvelle Mouture. Oui. Je parle beaucoup de cette ressource-là, même si c'est un concurrent qui le fait. Vous le savez, nous, ce qui nous intéresse, c'est le livre audio.
Ben oui,
c'est
absolument.
Ça qui est important.
C'est une belle ressource. Donc oui, moi, je l'ai trouvé à partir du catalogue donc grand public de BANQ. Puis là, une fois qu'on suit le lien, ben là, on peut aussi fouiller sur le site de Radio-Canada. Puis les ressources de BANQ, ben, si la personne est abonnée au SQLA, elle a accès à toutes ces ressources-là, ce que souvent nos abonnés ne savent pas. Donc, j'ai trouvé deux petits livres pour enfants sur ce site qui sont très intéressants. Premièrement, moi, c'est Frida Kahlo de Sophie Fauché. Mm-hmm. C'est la suite de Frida, c'est moi. Donc, elle s'est amusée à écrire deux très beaux livres pour enfants sur Frida Kahlo. Ça dure 9 minutes. C'est un livre pour enfants, évidemment, c'est très rapide. Ça a été enregistré en direct devant public au Salon du Livre. Donc, c'est Sophie Fauché elle-même qui en fait la lecture. Donc, c'est dans ce livre, elle prête sa voix à Frida, qui est une enfant qui se raconte à travers les joies et les peines de son quotidien. Et dans la suite, elle raconte d'autres épisodes de sa vie.
Voulez-vous qu'on l'écoute?
Moi, c'est Frida. Ça, c'est mon histoire quand j'étais petite. Maintenant, je vais te raconter la suite. À l'âge de 8 ans, j'ai eu un terrible accident. Depuis, je ne suis pas tout à fait comme les autres. Je suis comme une poupée cassée. Je suis Frida en 1000 morceaux. Je passe beaucoup de temps dans mon lit. Heureusement, il y a la peinture. As-tu essayé de dessiner couché ? Ce n'est pas facile. Alors papa m'a construit un chevalet spécial et je peux faire des tableaux. Je suis Frida qui peint au lit. Je voulais devenir médecin, mais une docteure en mauvaise santé, ce n'est pas rassurant pour les malades. Dessiner, colorier, peindre, ça aussi j'aime ça. Qui peut me dire si j'ai du talent? Le plus grand peintre du Mexique, c'est le gros patapouf Diego Rivera. Lui, il va savoir. Je suis Frida, je ne sais pas quoi.
La voix de Sophie Fauché aussi.
Elle a une si belle voix.
Absolument, absolument. Vous aviez un autre livre pour enfants à nous suggérer, Hélène.
Oui, toujours disponible sur cette plateforme. C'est La princesse et le poney de Kate Beaton. Un livre qui est très populaire auprès de ma nièce en passant. Donc, c'est le premier livre pour enfants de Kate Beaton, qui est une auteure de bandes dessinées canadiennes qui sont très populaires, disponibles en ligne. Donc, celui-là est lu, encore une fois, devant public par Suzanne Champagne dans un parc. Donc, de très bonnes lectrices, mais on va entendre un peu de bruit de fond comme on l'a entendu là, dans le dernier extrait.
Et c'est pas désagréable.
Non,
ça rend les choses tellement plus vivantes.
Ben,
le principal est qu'on entende bien le texte.
C'est ça, c'est quand même plaisant. Donc, c'est une petite histoire qui est très charmante et très drôle. C'est une princesse qui rêve d'avoir un cheval à sa fête et qui se retrouve plutôt avec un poney flatulent.
c'est mignon.
C'est très sympathique.
Alors, pour les adultes maintenant, nous arrivez avec deux bios, je pense.
Deux biographies. Donc, celles-là sont disponibles en format adapté à partir du SQLA.
D'accord.
Donc, premièrement, moi de René Aumierois.
Après moi, c'est Frida.
Là, c'est René Aumierois.
Oui.
C'est écrit avec la complicité de Marc-André Lucier. On va lui donner le crédit. Donc, ils ont conversé, ils ont discuté et Marc-André Lucier a ensuite écrit la biographie. Donc, René Aumierois, on l'appelle Monsieur Culture. Il a toujours fait partie de notre paysage médiatique. Il a accompagné le développement, l'épanouissement de la culture québécoise des 50 dernières années. Donc, il se raconte, mais il raconte aussi le monde de la culture et des médias. Donc, même si vous ne trouvez pas René Aumierois très intéressant, ça va l'être tout de même. Il fait preuve de beaucoup d'humour, il a un grand sens de l'observation, puis ça se lit assez rapidement pour un ouvrage qui couvre beaucoup de matière.
Et là aussi, j'ai un extrait à vous proposer. Alors, ce n'est pas M. Aumierois qui lit, c'est un lecteur de chez Vues et Voix. On en écoute.
Participer à l'écriture d'une biographie consacrée à soi m'a toujours paru relever davantage de la vanité que de la vérité. Il y a déjà longtemps, lorsque Marc-André m'a proposé de participer à ce qu'il appelait notre projet, par politesse, j'ai dit oui. Genre, plus tard, à un moment donné, on en reparle. Et il m'en a reparlé jusqu'à ce que mon peut-être devienne un oui sincère. Car, à ma grande surprise, aucun de mes amis n'a trouvé cette idée idiote. On m'a rappelé que j'avais, professionnellement, eu plusieurs vies, que j'en avais croisé d'autres, passionnantes, que ma longévité dans ce métier faisait de moi une sorte de monument comme Marc Labrèche ne se lasse pas de le répéter. Et puis, il y a eu mon psy. J'avoue que je comptais un peu sur lui pour me calmer le pompon. Il fait partie, cet homme formidable, de la secte professionnelle qui ne répugne pas à répondre aux questions qu'on lui pose autrement que par « Et vous, qu'en pensez-vous ?» Et oui, la vanité. Et puis la chance, qui, à mon avis, a été dans ma vie plus importante que le talent. Mais pourquoi ne pas raconter tout cela? Pourquoi ne pas en faire le cadeau à tous mes amis des aurores, du cinéma, de la culture à laquelle, très modestement, j'ai participé? À mon grand étonnement, l'exercice a été fort intéressant. Ça m'a rappelé l'examen de conscience qu'on devait faire avant d'aller à la confesse. Car, vu de l'intérieur, ma vie m'a toujours semblé plutôt beige. Mais il se peut que, d'un autre point de vue, elle apparaisse plus colorée, plus intéressante. Si vous vous apprêtez à lire cette histoire, c'est la grâce que je vous souhaite de tout mon cœur. René Aumierois.
Eh oui, René Aumierois, pour finir cet extrait-là, c'est effectivement la préface de ce bouquin. Tout à l'heure, on a écouté, avant que vous arriviez, une chanson de Leonard Cohen. Et pour cause.
Oui, donc enfin, la biographie « I'm Your Man », la vie de Leonard Cohen de Sylvie Simmons, qui est une journaliste musicale. Je voulais vous en parler rapidement parce que c'est enfin disponible en français, enfin disponible au SQLA. Lorsqu'elle a paru en 2012, le New York Times l'a présenté comme étant « la bio » avec un grand B de Leonard Cohen. Ça dure 22h30, donc c'est une brique. Si vous êtes fan, lancez-vous sur cette biographie.
Hélène Gauthier, merci. On se retrouve très bientôt sur les ondes.
Oui, à bientôt.
C'est gentil. La semaine prochaine, on va accueillir, entre autres, Tristan Malavoie pour célébrer le FIL, le Festival international de littérature, à l'émission des livres plein les oreilles. On l'écoute.
Il répond de présent dès qu'un bon vent se lève. Ont les yeux aussi grands que la mémoire brève. Ils ont le diable au corps, petit Vinci du cœur. Leur espoir fou, plus vaste encore que leur peur. Et vont errer, aveugles et sourds, les icares tombés de l'amour.
Désenvolé et bon.
Voilà, Tristan Malavoie qui sera là la semaine prochaine et Clotilde Sey qui sera là aussi la semaine prochaine pour vous présenter des livres plein les oreilles sur les ondes de Canal M. Salut!